Que n'aurais-je pas à dire si je m'étendais ici sur la variété, sur l'immensité des spectacles réservés à l'âme dans sa demeure céleste? Toutes les fois que j'y pense, j'admire l'effronterie de certains philosophes qui s'applaudissent d'avoir étudié la physique et qui, transportés de reconnaissance pour leur chef, le révèrent comme un dieu. À les entendre, il les a délivrés d'une erreur sans borne et d'une frayeur sans relâche, insupportable tyran. Mais cette erreur, mais cette frayeur, sur quoi fondée? Où est la vieille à ces imbéciles pour craindre ces gouffres ténébreux, ces lieux pâles et sombres, effroyables séjours de la mort et des ombres? Il y avait donc là de quoi vous faire peur, sans le secours de la physique. Tirez vanité de ne pas craindre ces sortes d'objets, et d'en avoir reconnu le faux. Quelle honte pour un philosophe! Voilà des gens à qui la nature avait donné un esprit bien pénétrant, puisque, si l'étude n'était venue à leur aide, ils allaient croire tout cela. Un point capital, selon eux, c'est d'avoir été conduits par leurs principes à croire qu'à l'heure de la mort, ils seront anéantis. Soit. Mais que trouve-t-on dans l'anéantissement, ou d'agréable ou de glorieux? Au fond, je ne vois rien qui démontre que l'opinion de Pythagore et de Platon ne soit pas véritable. Quand même Platon n'en apporterait point de preuve, il m'ébranlerait par son autorité toute seule, tant je suis prévenu en sa faveur. Mais à cette quantité de preuves qu'il entasse, on juge qu'il avait l'intention de convaincre ses lecteurs et qu'il était convaincu tout le premier. À l'égard de ces autres philosophes qui condamnent les âmes comme des criminels à perdre la vie, ils ne se fondent au contraire que sur une seule raison. Ce qui leur rend incroyable, disent-ils, l'immortalité des âmes, c'est qu'ils ne sauraient comprendre une âme sans corps. Mais ont-ils une idée plus claire de ce qu'est l'âme dans le corps, de sa forme, de son étendue, du lieu où elle réside? Quand il serait possible de voir dans un homme plein de vie toutes les parties qui le composent au-dedans, y verrait-on l'âme? À force d'être déliée, elle se dérobe aux yeux les plus perçants. C'est la réflexion que doivent faire ceux qui disent ne pouvoir comprendre une âme incorporelle. Et comprennent-ils mieux une âme unie au corps? Pour moi, quand j'examine ce que c'est que l'âme, je trouve infiniment plus de peine à me la figurer dans un corps où elle est comme dans une maison étrangère qu'à me la figurer dans le ciel, qui est son véritable séjour. Si l'on ne peut comprendre que ce qui tombe sous les sens, on ne se formera donc une ni l'idée, ni de Dieu lui-même, ni de l'âme délivrée du corps et de la divine. La difficulté de concevoir ce qu'elle est, lors même qu'elle est unie au corps, fit que Desarques et Aristoxène prirent le parti de nier que ce fût quelque chose de réel. Et véritablement, il n'y a rien de si grand que de voir avec les yeux de l'âme, l'âme elle-même. Aussi est-ce là le sens de l'oracle qui veut que chacun se connaisse. Sans doute qu'Apollon n'a point prétendu par là nous dire de connaître notre corps, notre taille, notre figure. Car qui dit « nous » ne dit pas « notre corps » et quand je parle à vous, ce n'est pas à votre corps que je parle. Quand donc l'oracle nous dit « connais-toi », il entend « connais ton âme ». Votre corps n'est pour ainsi dire que le vaisseau, que le domicile de votre âme. Tout ce que vous faites, c'est votre âme qui le fait. Admirable précepte que celui de connaître son âme. On a bien jugé qu'il n'y avait qu'un homme d'un esprit supérieur qui pût en avoir conçu l'idée. Et c'est ce qui fait qu'on l'a attribué à un dieu. Mais l'âme elle-même ne connut-elle point de sa nature? Dites-moi, ne sait-elle pas du moins qu'elle existe et qu'elle se meut ? Or, son mouvement, selon Platon, démontre son immortalité. En voici la preuve, telle que Socrate l'expose dans le Phèdre de Platon, et que moi, je l'ai rapportée dans mon sixième livre de la République. Un être qui se meut toujours existera toujours. Mais celui qui donne le mouvement à un autre et qui le reçoit lui-même d'un autre cesse nécessairement d'exister lorsqu'il perd son mouvement. Il n'y a donc que l'être mu par sa propre vertu qui ne perd jamais son mouvement parce qu'il ne se manque jamais à lui-même. Et de plus, il est pour toutes les autres choses qui ont du mouvement, la source et le principe du mouvement qu'elles ont. Or, qui dit principe, dit ce qui n'a point d'origine, car c'est du principe que tout vient, et le principe ne saurait venir de autre chose. Il ne serait pas principe s'il venait d'ailleurs. Et n'ayant point d'origine, il n'aura par conséquent point de fin. Car il ne pourrait, étant détruit, ni être lui-même reproduit par un autre principe, ni en produire un autre, puisqu'un principe ne suppose rien d'antérieur. Ainsi, le principe du mouvement est dans l'être mu par sa propre vertu. Principe qui ne saurait être ni produit ni détruit. Autrement, il faut que le ciel et la terre soient bouleversés et qu'ils tombent dans un éternel repos, sans pouvoir jamais recouvrer une force qui, comme auparavant, les fasse mouvoir. Il est donc évident que ce qui se meut par sa propre vertu existera toujours. Et peut-on nier que la faculté de se mouvoir ainsi ne soit un attribut de l'âme ? Car tout ce qui n'est mu que par une cause étrangère est inanimé. Mais ce qui est animé est mu par sa propre vertu, par son action intérieure. Telle est la nature de l'âme, telle est sa propriété. Donc l'âme étant de tout ce qui existe la seule chose qui se meuve toujours elle-même, concluons de là qu'elle n'est point née et qu'elle ne mourra jamais. Que tout ce bas peuple de philosophes, c'est ainsi que je traite quiconque est contraire à Platon, à Socrate et à leur école, que tous ces autres philosophes, dis-je, se réunissent, et non seulement ils ne développeront jamais un raisonnement avec tant d'art, mais ils ne viendront pas même à bout de bien prendre le fil de celui-ci. L'âme sent qu'elle se meut, elle sent que ce n'est pas indépendamment d'une cause étrangère, mais que c'est par elle-même et par sa propre vertu. Il ne peut jamais arriver qu'elle se manque à elle-même. La voilà donc immortelle. Auriez-vous quelque objection à me faire la contre ? L'auditeur. J'ai été très aise qu'il ne s'en soit pas présenté aucune à mon esprit, tant j'ai de goût pour cette opinion. Trouverez-vous moins de force dans les preuves suivantes ? Je les tire des propriétés divines dont l'âme est revêtue. Propriétés qui me paraissent n'avoir pu être produites, ni par conséquent pouvoir finir. Car je comprends très bien, par exemple, de quoi et comment ont été produits le sang, la bile, la pituite, les os, les nerfs, les veines, et généralement tout notre corps tel qu'il est. L'âme elle-même, si ce n'était autre chose dans nous que le principe de la vie, me paraîtrait un effet purement naturel, comme ce qui fait vivre à leur manière la vigne et l'arbre. Et si l'âme humaine n'avait en partage que l'instinct de se porter à ce qui lui convient et de fuir ce qui ne lui convient pas, elle n'aurait rien de plus que les bêtes. Mais ses propriétés sont, premièrement, une mémoire capable de renfermer en elle-même une infinité de choses. Et cette mémoire, Platon veut que ce soit la réminiscence de ce qu'on a su dans une autre vie. Il fait parler dans le Ménon un jeune enfant que Socrate interroge sur les dimensions du carré. L'enfant répond, comme son âge le permet, et les questions étant toujours à sa portée, il va de réponse en réponse, si avant qu'enfin il semble avoir étudié la géométrie. De là, Socrate conclut qu'apprendre, c'est seulement se ressouvenir. Il s'en explique encore plus expressément dans le discours qu'il fit le jour même de sa mort. À un homme, dit-il, qui paraît n'avoir jamais acquis de lumière sur rien, et qui cependant répond juste à une question, fait bien voir que la matière sur laquelle on interroge ne lui est pas nouvelle, et que dans le moment qu'il répond, il ne fait que repasser sur ce qui était déjà dans son esprit. Il ne serait effectivement pas possible, ajoute Socrate, que dès notre enfance nous eussions tant de notions si étendues et qui sont comme imprimées en nous-mêmes, si nos âmes n'avaient pas eu de connaissances universelles avant que d'entrer dans nos corps. D'ailleurs, suivant la doctrine constante de Platon, il n'y a de réel que ce qui est immuable comme le sont les idées. Rien de ce qui est produit et périssable n'existe réellement. L'âme enfermée dans le corps n'a donc pu se former ses idées. Elle les apporte avec elle en venant au monde. Dès là, ne soyons plus surpris que tant de choses lui soient connues. Il est vrai que tout en arrivant dans une demeure si sombre et si étrange pour elle, d'abord elle ne démêle pas bien les objets. Mais quand elle s'est recueillie et qu'elle se reconnaît, alors elle fait l'application de ses idées. Apprendre n'est donc que se ressouvenir. Quoi qu'il en soit, je n'ennuie rien tant que la mémoire. Car enfin, quelle est la nature, quelle est son origine? Je ne parle pas d'une mémoire prodigieuse telle que l'a été celle de Simonide, de Théodecte, de Cinéas, de Charmides, de Métrodore, d'Hortensius. Je parle d'une mémoire commune telle que l'ont tous les hommes, et particulièrement ceux qui cultivent des sciences de quelque étendue. À peine croirait-on de combien d'objets ils la chargent sans qu'elle succombe. Et quelle est donc la nature de la mémoire? D'où procède sa vertu? Ce n'est certainement ni du cœur, ni du cerveau, ni du sang, ni des atomes. Je ne sais si notre âme est de feu ou d'air, et je ne rougis point, comme d'autres, d'avouer que j'ignore ce qu'en effet j'ignore. Mais qu'elle soit divine, j'en jurerais, si dans une matière obscure je pouvais parler affirmativement. Car la mémoire, je vous le demande, vous paraît-elle n'être qu'un assemblage de parties terrestres, qu'un amas d'air grossier et nébuleux? Si vous ne savez pas ce qu'elle est, du moins vous voyez de quoi elle est capable. Eh bien, dirons-nous qu'il y a dans notre âme une espèce de réservoir où les choses que nous confions à notre mémoire se versent comme dans un vase? Proposition absurde. Car peut-on se figurer que l'âme soit d'une forme à loger un réservoir si profond? Dirons-nous que l'on grave dans l'âme comme sur la cire, et qu'ainsi le souvenir elle emprunte la trace de ce qui a été gravé dans l'âme? Mais des paroles et des idées peuvent-elles laisser des traces? Et quel espace ne faudrait-il pas pour tant de traces différentes? Qu'est-ce que cette autre faculté qui cherche à découvrir ce qu'il y a de caché et qui se nomme intelligence, génie? Jugez-vous qu'il ne fut entré que du terrestre, du corruptible dans la composition de cet homme, qui le premier imposa un nom à chaque chose? Pythagore trouvait à cela une sagesse infinie. Regardez-vous comme pétri de limon, ou celui qui a rassemblé les hommes et leur a inspiré de vivre en société, ou celui qui, dans un petit nombre de caractères, a renfermé tous les sons que la voix forme et dont la diversité paraissait inépuisable, ou celui qui a observé comment se meuvent les planètes et qu'elles sont tantôt rétrogrades, tantôt stationnaires. Tous étaient de grands hommes, ainsi que d'autres encore plus anciens, qui enseignèrent à se nourrir de blé, à se vêtir, à se faire des habitations, à se procurer les besoins de la vie, à se précautionner contre les bêtes féroces. C'est par eux que nous fûmes apprivoisés et civilisés, et des arts nécessaires ont passé ensuite aux beaux-arts. On trouva, pour charmer l'oreille, les règles de l'harmonie. On étudia les étoiles, tant celles qui sont fixes que celles qu'on appelle errantes, quoiqu'elles ne le soient pas. Quiconque découvrit les diverses révolutions des astres, il fit voir par là que son esprit tenait de celui qui les a formés dans le ciel. Faire comme Archimède une sphère qui représente le cours de la lune, du soleil, des cinq planètes, et par un seul mouvement orbiculaire régler divers mouvements, les uns plus lents, les autres plus vite, c'est avoir exécuté le plan de ce dieu par qui Platon, dans le Timée, fait construire le monde. Autant que les révolutions célestes sont l'ouvrage d'un dieu, autant la sphère d'Archimède est l'ouvrage d'un esprit divin. Je trouve même qu'il y a du divin dans d'autres arts plus connus et qui ont quelque chose de plus brillant. Un poète ne produira pas des vers nobles et sublimes si je ne sais quelle ardeur céleste n'eût échauffé l'esprit. Sans un pareil secours, l'éloquence ne joindra pas à l'harmonie du style la richesse des pensées. Pour la philosophie, mère de tous les arts, n'est-ce pas, comme l'a dit Platon, un présent ou, comme je l'appelle, une invention des dieux? C'est d'elle que nous avons appris et à leur rendre d'abord un culte et à reconnaître ensuite des principes de justice qui soient le lien de la société civile et à nous régler enfin nous-mêmes sur les sentiments qu'inspirent la modération et la magnanimité. C'est aussi par elle que les yeux de notre esprit ont été ouverts, en sorte que nous voyons tout ce qui est au ciel, tout ce qui est sur la terre, l'origine, les progrès, la fin de tout ce qui existe. Une âme donc douée de si rares facultés me paraît certainement divine. Car après tout, qu'est-ce que la mémoire, qu'est-ce que l'intelligence, si ce n'est tout ce qu'on peut imaginer de plus grand, même dans les dieux? Apparemment, leur félicité ne consiste ni à se repaître d'ambroisie, ni à boire du nectar versé à pleine coupe par la jeunesse. Et il n'est point vrai que Ganymède ait été ravi par les dieux à cause de sa beauté pour servir des chansons à Jupiter. Le motif n'était pas suffisant pour faire à Laomédon une injure si cruelle. Homère, auteur de toutes ces fictions, donnait aux dieux les faiblesses des hommes. Que ne donnait-il plutôt aux hommes les perfections des dieux? Et quelles sont-elles? Immortalité, sagesse, intelligence, mémoire. Puisque notre âme rassemble ses imperfections, elle est par conséquent divine, comme je le dis. Ou même c'est un dieu, comme Euripide a osé le dire. En effet, si la nature divine est air ou feu, notre âme sera pareillement l'une ou l'autre. Et comme il n'entre ni terre ni eau dans ce qui fait la nature divine, aussi n'en doit-on point supposer dans ce qui fait notre âme. Et que s'il y a un cinquième élément, selon qu'Aristote l'a dit le premier, il sera commun et à la nature divine et à l'âme humaine. C'est ce dernier sentiment que j'ai suivi dans ma consolation, où je m'explique en ces termes. On ne peut absolument trouver sur la terre l'origine des âmes. Car il n'y a rien dans les âmes qui soit mixte et composé, rien qui paraisse venir de la terre, de l'eau, de l'air ou du feu. Tous ces éléments n'ont rien qui fasse la mémoire, l'intelligence, la réflexion, qui puisse rappeler le passé, prévoir l'avenir, embrasser le présent. Jamais on ne trouvera d'où l'homme reçoit ses divines qualités, à moins que de remonter à un dieu. Et par conséquent, l'âme est d'une nature singulière qui n'a rien de commun avec les éléments que nous connaissons. Quelle que soit donc la nature d'un être qui a sentiment, intelligence, volonté, principe de vie, cet être-là est céleste, il est divin et dès là immortel. Dieu lui-même ne se présente à nous que sous cette idée d'un esprit pur, sans mélange, dégagé de toute matière, corruptible, qui connaît tout, qui meut tout et qui a de lui-même un mouvement éternel. Tel est de ce même genre est l'esprit humain. Mais enfin, où est-il, me direz-vous, et quelle forme a-t-il? Pourriez-vous bien, vous répondrai-je, m'apprendre où est le vôtre et quelle est sa forme? Quoi? Parce que mon intelligence ne s'étend pas jusqu'où je souhaiterais, vous ne voudrez pas que du moins elle s'étende jusqu'où elle peut? Si notre âme ne se voit pas, elle a cela de commun avec l'œil qui, sans se voir lui-même, voit les autres objets. Elle ne voit pas comment elle est faite, aussi lui importe-t-il peu de le voir. Et d'ailleurs, peut-être le voit-elle. Quoi qu'il en soit, elle voit au moins de quoi elle est capable. Elle connaît qu'elle a de l'intelligence et de la mémoire. Elle sent qu'elle se meut avec rapidité par sa propre vertu. Or, c'est là ce qu'il y a dans l'âme de grand, de divin, d'éternel. Mais à l'égard de sa figure et de sa demeure, ce sont choses qui ne méritent seulement pas d'être mises en question. Quand, par exemple, nous regardons la beauté et la splendeur du ciel, la célérité avec laquelle il roule, qui est si grande qu'on ne saurait la concevoir, la vicissitude des jours et des nuits, le changement des quatre saisons qui servent à mûrir les fruits et à rendre les corps plus sains, le soleil qui est le modérateur et le chef de tous les mouvements célestes, la lune dont le croissant et le décours semblent faits pour nous marquer les fastes, les planètes qui, avec des mouvements inégaux, fournissent également la même carrière sur un même cercle divisé en 12 parties. Cette prodigieuse quantité d'étoiles qui, durant la nuit, décore le ciel de toutes parts. Et quand nous jetons ensuite les yeux sur le globe de la Terre, élevé au-dessus de la mer, placé dans le centre du monde et divisé en 5 parties, 2 desquelles sont cultivées, la septentrionale que nous habitons, l'austral où sont nos antipodes, qui nous est inconnu, et les 3 autres parties incultes parce que le froid ou le chaud y dominent avec excès, quand nous observons que dans la partie où nous sommes, on voit toujours, au temps marqué, une clarté plus pure embellir la nature, les arbres reverdir, les fontaines bondir, l'herbe tendre renaître, le pampre reparaître, et les tribus de flore enrichir nos jardins, quand nous voyons que la terre est peuplée d'animaux, les uns pour nous nourrir, les autres pour nous vêtir, ceux-ci pour traîner nos fardeaux, ceux-là pour labourer nos champs, que l'homme y est comme pour contempler le ciel et pour honorer les dieux, que toutes les campagnes, toutes les mers obéissent à ses besoins, pouvons-nous, à la vue de ce spectacle, douter qu'il y ait un être ou qui ait formé le monde? Supposer que, suivant l'opinion de Platon, il ait été formé, ou qui le conduise et le gouverne, supposer que, suivant le sentiment d'Aristote, il soit de toute éternité. Or, de même qu'aux ouvrages d'un dieu, vous jugez de son existence, quoiqu'il ne vous tombe pas sous les sens, de même, quoique votre âme ne soit pas visible, cependant, la mémoire, l'intelligence, la vivacité, toutes les perfections qui l'accompagnent, doivent vous persuader qu'elle est divine. Mais encore une fois, où réside-t-elle? Je la crois dans la tête, et j'ai des raisons pour la croire là. Mais enfin, quelque part qu'elle soit, il est certain qu'elle est dans vous. Quelle est sa nature ? Oh, je lui crois une nature particulière et qui n'est que pour elle. Mais faites-la de feu ou d'air, peu importe, pourvu seulement que, comme vous connaissez Dieu, quoique vous ignoriez et sa demeure et sa figure, vous tombiez d'accord que vous devez aussi connaître votre âme, quoique vous ignoriez et où elle réside et comment elle est faite. Cependant, à moins que d'être d'une crasse ignorance en physique, on ne peut douter que l'âme ne soit une substance très simple, qui n'admet point de mélange, point de composition. Il suit de là que l'âme est indivisible et par conséquent immortelle, car la mort n'est autre chose qu'une séparation, qu'une désunion des parties qui auparavant étaient liées ensemble. Pénétré de ces principes, Socrate, au point d'être condamné à mort, ne daigna ni faire plaider sa cause, ni se montrer devant les juges en posture de suppliant. Il conserva une fierté qui venait non d'orgueil, mais de grandeur d'âme. Le jour même de sa mort, il discourut longtemps sur le sujet que nous traitons. Peu de jours auparavant, maître de s'évader de sa prison, il ne l'avait point voulu, et dans le temps qu'on allait lui apporter le breuvage mortel, il parla non en homme à qui l'on arrache la vie, mais en homme qui monte au ciel. Deux chemins, disait-il, s'offrent aux âmes lorsqu'elles sortent des corps. Celles qui, dominées et aveuglées par les passions humaines, ont à se reprocher ou des habitudes criminelles, ou des injustices irréparables, prennent un chemin tout opposé à celui qui mène au séjour des dieux. Et pour celles qui ont, au contraire, conservé leur innocence et leur pureté, qui se sont sauvées tant qu'elles ont pu de la contagion des sens, et qui, dans des corps humains, ont imité la vie des dieux, le chemin du ciel d'où elles sont venues leur est ouvert. On a consacré les signes à Apollon parce qu'il semble tenir de lui l'art de connaître l'avenir, et c'est par un effet de cet art que, prévoyant de quels avantages la mort est suivie, il meurt avec volupté et tout en chantant. Ainsi doivent faire, ajoutait Socrate, tous les hommes savants et vertueux. Personne n'y trouverait la moindre difficulté s'il ne nous arrivait, quand nous voulons trop approfondir la nature de l'âme, ce qui arrive quand on regarde trop fixement le soleil couchant, on en vient à ne plus voir. Et de même, quand notre âme se regarde, son intelligence vient quelquefois s'émousser, en sorte que nos pensées se brouillent. On ne sait plus à quoi se fixer, on retombe d'un doute dans un autre, et nos raisonnements ont aussi peu de consistance qu'un navire battu par les flots. Mais ce que je dis là de Socrate est ancien et tiré des Grecs. Parmi nous, Caton est mort dans une telle situation d'esprit que c'était pour lui une joie d'avoir trouvé l'occasion de quitter la vie, car on ne doit point la quitter sans l'ordre exprès de ce Dieu qui a sur nous un pouvoir souverain. Mais quand lui-même il nous en fait connaître un juste sujet, comme autrefois à Socrate, comme à Caton et souvent à bien d'autres, un homme sage doit en vérité sortir bien content de ses ténèbres pour gagner le séjour de la lumière. Il ne brisera pas les chaînes qui le captivent sur la terre, car les lois s'y opposent. Mais lorsqu'un dieu l'appellera, c'est comme si le magistrat ou quelque autre puissance légitime lui ouvrait les portes d'une prison. Toute la vie des philosophes, dit encore Socrate, est une continuelle méditation de la mort. Car enfin, que faisons-nous en nous éloignant des voluptés sensuelles, de tout emploi public, de toutes sortes d'embarras, et même du soin de nos affaires domestiques qui ont pour objet l'entretien de notre corps ? Que faisons-nous, dis-je, autre chose que rappeler notre esprit à lui-même, que le forcer à être à lui-même et que l'éloigner de son corps, tout autant que cela se peut ? Oh, détacher l'esprit du corps, n'est-ce pas apprendre à mourir? Pensons-y donc sérieusement, croyez-moi. Séparons-nous aussi de nos corps, accoutumons-nous à mourir. Par ce moyen, et notre vie tiendra déjà d'une vie céleste, et nous en serons mieux disposés à prendre notre essor quand nos chaînes se briseront. Mais les âmes qui auront toujours été sous le joug des sens auront peine à s'élever de dessus la terre, lors même qu'elles seront hors de leurs entraves. Il en sera d'elles comme de ces prisonniers qui ont été plusieurs années dans les fers, ce n'est pas sans peine qu'ils marchent. Pour nous, arrivés un jour à notre terme, nous vivrons enfin. Car notre vie d'à présent, c'est une mort. Et si j'en voulais déplorer la misère, il ne me serait que trop aisé. L'auditeur. Oh, vous l'avez assez déploré dans votre consolation. Je ne lis point cet ouvrage que je n'ai envie de me voir à la fin de mes jours, et cette envie, par tout ce que je viens d'entendre, augmente fort. Vos jours finiront, et de force ou de gré, finiront bien vite, car le temps vole. Or, non seulement la mort n'est point un mal, comme d'abord vous le pensiez, mais peut-être n'y a-t-il que des maux pour l'homme, à la mort près, qui est son unique bien, puisqu'elle doit ou nous rendre Dieu nous-mêmes, ou nous faire vivre avec les dieux. Oh, qu'importe lequel, car il y a des gens qui n'admettent ni l'un ni l'autre. Oh, vous ne m'échapperez pas aujourd'hui que je n'ai dissipé absolument tout ce qui peut vous faire craindre la mort. Mais par où la craindrais-je après ce que vous venez de m'apprendre? Par où? Eh, ne se présente-t-il pas une foule de contradicteurs? Vous n'avez pas seulement les épicuriens, qui, selon moi, ne sont point à mépriser. Quoique tous nos savants, je ne sais pourquoi, les regardent en pitié. Vous avez un auteur dont je suis charmé, Dicéarque, qui combat vivement l'immortalité de l'âme dans les trois livres qu'il appelle « Lesbiaque », parce que Mytilène, dans l'île de Lesbos, est la scène de son dialogue. Pour les stoïciens, ils prétendent que nos âmes ne vivent que comme des corneilles, longtemps, mais non pas toujours. Voulez-vous donc voir que même en supposant l'âme mortelle, la mort n'en deviendrait pas redoutable? Volontiers, mais quelque chose qu'on puisse dire contre l'immortalité de l'âme, on ne me dissuadera pas. Je vous en loue. Cependant, ne comptons point trop sur notre fermeté. Quelquefois, il ne faut pour nous renverser qu'un argument un peu subtil. Dans les questions même les plus claires, nous hésitons, nous changeons d'avis. Or, celle dont il s'agit entre nous n'est pas sans quelque obscurité. De peur donc d'être surpris, ayons nos armes toujours prêtes. Une précaution sage. Mais cet accident ne m'arrivera pas, j'y mettrai ordre. Quant à nos amis les stoïciens, avons-nous tort d'abandonner ceux d'entre eux qui disent que les âmes subsistent encore quelque temps au sortir du corps, mais qu'elles ne subsistent pas éternellement? Ils accordent d'une part ce qu'il y a de plus difficile, que l'âme, quoique séparée du corps, peut subsister, et d'autre côté, ils ne veulent pas que l'âme puisse subsister toujours. De ces deux points, non seulement le dernier est aisé à croire, mais il suit naturellement du premier. Vous dites vrai, les stoïciens n'ont rien à répliquer. Et que pensez donc de Panétis, qui se révolte ici contre Platon, après l'avoir partout ailleurs appelé divin, très sage, très saint, l'Homère des philosophes? Il ne rejette de toutes ses opinions que celle de l'immortalité et il appuie la négative sur deux raisons. L'une, que la ressemblance des enfants au père, ressemblance qui se remarque non seulement dans les traits mais encore dans l'esprit, fait voir que les âmes sont engendrées. D'où il conclut que les âmes sont mortelles, parce que tout être qui a été produit doit être détruit, comme tout le monde en convient. L'autre, que tout ce qui peut souffrir peut aussi être malade, que tout ce qui est malade est mortel, et que par conséquent les âmes, puisqu'elles peuvent souffrir, ne sont pas immortelles. À l'égard de cette dernière preuve, elle porte à faux. Il ne prend pas garde que Platon, lorsqu'il fait l'âme immortelle, parle de l'intelligence qui n'est pas susceptible d'altération et qui est, selon Platon, entièrement séparée des autres parties que les passions et les infirmités attaquent. Pour la ressemblance, sur quoi il fonde son premier argument, c'est dans l'âme des bêtes qui n'est pas raisonnable et qu'elle se fait le mieux sentir. D'homme à homme, elle n'est guère que corporelle. Mais en cela même, elle a du rapport à l'âme, parce qu'il n'est pas indifférent à l'âme d'être dans un corps disposé et organisé de telle ou telle façon. Les organes et le tempérament contribuent fort à la rendre ou plus vive ou plus lourde. Aristote dit que la mélancolie est le partage des grands génies, et c'est ce qui me console de la médiocrité du mien. Il confirme sa remarque par divers exemples. Après quoi, comme si le fait était certain, il en donne la raison. Quoi qu'il en soit, puisque les organes influent sur les qualités de l'âme, et que la ressemblance d'une âme à l'autre ne peut venir que de là seulement, cette ressemblance, par conséquent, ne prouve pas que les âmes elles-mêmes soient engendrées. Je voudrais que Panétius fût au monde, lui qui était contemporain et ami de Scipion l'Africain. Je lui demanderais à qui de toute la famille des Scipions ressemblait le neveu de cet illustre personnage. Pour les traits, c'était son père. Pour les mœurs, il fallait chercher son semblable dans le plus scélérat de tous les hommes. Et Crassus, dont la sagesse, dont l'éloquence, dont le rang était si considérable, n'a-t-il pas eu de même un petit-fils qui ne tenait rien de son mérite? Combien d'autres grands hommes, qu'il est inutile de nommer, ont eu une postérité indigne d'eux? Mais où tend ce discours? Oublions-nous qu'après en avoir dit assez sur l'immortalité de l'âme, notre but présentement doit être de montrer que même en supposant l'âme mortelle, nous n'avons point à redouter la mort. Oh, je ne l'oubliais pas, mais tant que vous me parliez de l'immortalité, je vous laissais volontiers perdre de vue l'autre objet. Vos desseins, ce que je vois, sont grands. Vous aspirez au ciel. J'espère que nous y arriverons. Mais enfin, puisqu'il y a des philosophes d'un autre sentiment, prenons que l'homme soit mortel. Toute espérance d'une vie plus heureuse que celle-ci est donc nulle dès lors. Et que nous en revient-il de mal? Est-ce qu'après l'extinction de l'âme, le sentiment continuera dans le corps? On ne l'a jamais dit. Épicure, à la vérité, soupçonne Démocrite de l'avoir cru, mais les partisans de Démocrite le nient. Or, le sentiment ne continuera pas non plus dans l'âme, puisque l'âme n'existera plus. Et dans quelle partie de l'homme feriez-vous donc résider le mal? Car il n'y a qu'âme et corps. Le mettez-vous en ce que la séparation de l'un et de l'autre ne se fait pas sans douleur? Mais cette douleur, combien peu dure-t-elle? D'ailleurs, êtes-vous sûr qu'il y ait de la douleur? Je crois, moi, qu'on meurt pour l'ordinaire sans le sentir, et que même quelquefois il s'y trouve du plaisir. Quoi qu'il en soit, ce qui se passe alors en nous ne saurait être que peu de choses, puisque c'est l'affaire d'un instant. Et par où la mort nous afflige, nous met au désespoir, c'est que dans ce moment nous quittons les biens de cette vie. Peut-être, si vous disiez « c'est misère », parleriez-vous plus juste. À quoi bon déplorer ici la destinée des hommes? je n'en aurai que trop de sujets. Mais puisque mon but est de prouver qu'après la mort nous n'aurons plus à souffrir, pourquoi rendre cette vie plus fâcheuse encore par le récit des souffrances qui l'accompagnent? Je les ai décrites dans ce livre où j'ai cherché à me donner autant que j'en étais capable quelques consolations. La vérité, si nous voulons en convenir, est que la mort nous enlève non pas des biens, mais des maux. Égésias le prouvait si éloquemment que le roi Ptolémée, dit-on, lui défendit de traiter cette matière dans ses leçons publiques, à cause que plusieurs de ses auditeurs se donnaient la mort. Nous avons une épigramme de Callimaque sur Cléombrote d'Abracie, qui, sans avoir d'ailleurs aucun sujet de chagrin, se précipita dans la mer après avoir lu le Phédon. Et cet Égésias, que je viens de vous citer, a composé un livre où il fait parler un homme déterminé à se laisser mourir de faim. Les amis de cet homme tâchent de l'en dissuader. Et lui, pour toute réponse, il leur détaille les peines de cette vie. Je ne dirai point, à l'exemple de ce philosophe, que la vie soit onéreuse généralement à tout homme sans exception. Je ne parle pas des autres. Pour ce qui est de moi, si j'étais mort avant que d'avoir perdu et secours domestique et fonction du barreau et toute dignité, n'est-il pas vrai que la mort, loin de m'arracher les biens, m'eût fait prévenir des maux? Mais jetons les yeux sur quelqu'un d'heureux que jamais la fortune n'ait traversé en rien. Tel a été ce Metellus qui s'est vu 4 fois élevé aux premiers honneurs. Opposons-lui Priam qui avait 50 fils entre lesquels 17 de légitimes. Le pouvoir de la fortune était le même sur ces deux hommes. Elle fait grâce à l'un et elle frappe l'autre. Metellus fut porté sur son bûcher par ses fils, par ses filles, par tous leurs descendants, et Priam, au contraire, après avoir vu égorger sa nombreuse postérité, fut égorgé lui-même au pied d'un autel où il s'était réfugié. Or, supposons que la mort de Priam eût précédé le carnage de ses enfants et la chute de son royaume. Supposons qu'on l'eût vu paisiblement expirer au comble du bonheur dans une douce paix, sous les lambris dorés d'un superbe palais. Lequel eût-on dit? Ou que la mort lui enlevait des biens ou qu'elle lui épargnait des maux? On eût sans doute jugé qu'elle lui enlevait des biens. L'événement prouve le contraire. Aujourd'hui, nos théâtres ne retentiraient pas de ces plaintes lamentables. J'ai vu cette fameuse Troie au carnage aux flammes en proie. J'ai vu Priam expirer sous le fer et souiller de son sang l'autel de Jupiter. Comme si dans cette extrémité la mort n'était pas tout ce qu'il y a de mieux pour lui. En se hâtant, elle lui eût sauvé d'étranges disgrâces. Mais au moins, lui en a-t-elle fait perdre le sentiment? Pompée étant à Naples, il tomba dangereusement malade. Dès que le danger fut passé, tout Naples se couronna de fleurs. Puzzoli en fit de même. Les villes d'alentour signalèrent leur allégresse par des fêtes publiques. Ce sont de petites flatteries à la grecque, mais qui font voir qu'un homme est dans la prospérité. S'il fut donc mort dans ce temps-là, eût-il quitté des biens ou des maux? Assurément des maux et très cruels. Il n'eût pas fait la guerre à son beau-père, il ne s'y fut pas engagé sans préparatif, il n'eût pas abandonné son foyer, il ne se fut pas enfui d'Italie, il ne fut pas tombé après la déroute de son armée, seul et sans défense, entre les mains de misérables esclaves qui le poignardèrent, il n'eût pas laissé sa famille dans une affreuse situation. Toute son opulence n'eût pas été la proie du vainqueur. En mourant plus tôt, il mourait comblé de gloire. Quels affreux, quels incroyables accidents! Une plus longue vie lui a-t-elle réservée ?